Encore bonjour et bienvenue à chacune et chacun. On est content d'être réunis pour célébrer le Seigneur ensemble, pour l'écouter aussi, pour vivre ce moment dans sa présence. Et je propose qu'on prie encore ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que ce matin, tu es présent au milieu de nous, dans chacune de nos vies et par ce mystère de la communion fraternelle, ta vie circule en nous et se manifeste en touchant nos cœurs, en nous remplissant de ta présence, en nous accompagnant dans ces moments de louange, ces moments où nous tournons vers toi, mais aussi dans ce moment où nous voulons penser avec toi, où nous voulons que notre cœur t'accueille, Seigneur. Nous voulons te faire de la place dans nos pensées, dans nos esprits, dans nos âmes, dans tout notre être, pour que tu viennes continuer de nous transformer à ton image, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous donnes, pour ton chemin, qui n'est pas toujours celui que nous aurions choisi, mais qui est le bon. Et merci pour ce moment maintenant. Amen. J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble ce matin sur trois états qui sont abordé, décrit dans le Nouveau Testament, entre autres par Jésus, mais aussi par Paul, celui d'esclave, d'enfant et de fils. Dans Jean, au chapitre 8, c'est le premier passage qu'on va lire, on va lire les versets 34 à 37. Jésus parle avec les gens qui étaient les docteurs de la loi, les gens religieux de l'époque, les gens qui avaient passé toute leur vie à étudier la parole de Dieu, qui pensaient en connaître, enfin, qui en connaissaient beaucoup. Et il leur dit, « Je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes des descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. » Jésus leur explique ici que, bien qu'ils fassent partie de la famille, entre guillemets, de la grande famille d'Israël, qui était considérée comme les enfants de Dieu, en fait, tous ceux qui commettent le péché sont esclaves du péché. Et une des choses que Jésus est venu accomplir sur terre, et souvent on ne comprend pas cette chose-là, il n'est pas venu dire que la loi, c'était pas très bien, ou que ouais, c'était une mauvaise idée, maintenant on a trouvé autre chose, on a trouvé mieux que la loi, il y a la grâce. C'est pas du tout ça, hein. Il est venu expliquer plus précisément à quoi servit la loi et l'amener plus loin encore que ceux qu'avaient compris les gens qui l'avaient étudié. Puisque pour ces gens-là qui passaient leur vie à étudier la loi, ce qu'il fallait, c'était l'accomplir. Ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Et Jésus vient pas en disant, écoutez, tout ça, c'est aboli, il y a autre chose maintenant. Il leur dit, non, mais je vais vous expliquer exactement ce que mon père voulait dire quand il disait, tu ne commettras pas d'adultère. Bien sûr qu'il disait, il ne faut pas commettre d'adultère. Mais il voulait dire, il faut même pas y penser. Et là, on sait que, ouf, ah, bon, compliqué. Quand mon père a dit, tu ne tueras pas, évidemment qu'il voulait dire, tu ne tueras pas. Il voulait dire aussi, juste la pensée que quelqu'un d'autre devrait être éliminé de notre route, on le ferait pas nous, mais si ça arrivait, on serait content. C'est déjà un meurtre, et etc. Pourquoi Jésus a fait cette chose-là? Il n'est pas venu rabaisser les exigences. Il voulait que la loi puisse faire son travail. Or, quel est le but de la loi? Elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Elle exprime la sainteté de Dieu. Mais quel était son but vis-à-vis de nous? Pas de nous rendre meilleurs, parce qu'on a vu que ça ne marchait pas. Pendant plusieurs milliers d'années, les hommes ont essayé de devenir meilleurs en accomplissant la loi, puis c'était un échec total. Alors pourquoi cette loi? La mauvaise et bonne nouvelle, c'est que la loi était là pour nous condamner, pour nous mettre à mort. Elle n'est pas là pour nous dire, voilà ce qu'il faudrait faire, allez, si vous faites un petit effort, vous allez y arriver. Elle est là pour montrer que nous sommes tous coupables, tous condamnés. Pas même un seul qui peut y arriver un petit peu. Naturellement, nous avons tendance à faire le contraire. On ne veut pas supprimer la loi, mais on veut la rendre fréquentable. On l'adapte. Hein? Ouais, ben, bien sûr que la loi est bonne, mais en même temps, tout le monde pense comme ça. Donc moi aussi, ouais, Dieu sait que je suis humain, que je suis faible. C'est normal de penser comme ça. Qui pourrait ne jamais se fâcher? Quel homme pourrait ne jamais convoiter au moins une fois un petit moment fugace comme ça? Alors, on diminue la loi pour qu'elle ne nous écrase pas. Hein? Parce que au fond de nous, on est quand même tous avec cette idée. C'est vrai que Christ est mort aussi pour des gens horribles, méchants, abominables. Mais moi, je suis quand même pas si mal que ça. Avec un peu d'aide, je pourrais presque y arriver. Hein? Si Dieu me donne un petit coup de main, je peux être au moins dans la bonne moyenne, au bon niveau. Hein? Parce que quand même, ben ouais, mes parents étaient déjà chrétiens, moi aussi, je suis dans une bonne famille, je suis bien éduqué, je mets pas les coudes sur la table, je mets pas le doigt dans mon nez, je dis merci à la dame, je dis bonjour au monsieur. Je vole pas, je mens pas, j'arrive à l'heure au travail. Je dis pas que je suis parfait, ça serait de l'orgueil, hein. Mais dans la bonne moyenne, hein. J'ai pas 6, mais 5,5. Je peux le faire. Et donc, je veux me faire ami-ami avec la loi. Je la rends praticable. Et c'est pour ça que Jésus est venu, parce que c'est ce que faisaient ces gens-là. On a toujours une idée assez caricaturale, méchante, ou je sais pas, de ces pauvres pharisiens. Hein. Je dis pauvres pour une fois. Hein. Mais en réalité, ils étaient comme nous. C'était pas tous des gens tordus, corrompus, pourris, qui voulaient utiliser la loi pour profiter des autres. Il y en avait forcément. Mais j'imagine la grosse majorité. Ils avaient grandi là-dedans. Ils y croyaient vraiment et ils voulaient être des gens bien. Hein? Essayer de faire le mieux possible. Et Jésus arrive et leur dit, vous savez quoi, les gars? C'est beaucoup trop bas, votre loi. La loi dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu tueras pas, mais moi je vous dis, tu commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis. Et là, ils sont tous en colère. Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est déjà pas assez difficile comme ça. Déjà, on peut rien faire. On est toujours en train de. Attention, je touche une mouche morte, c'est fini. Pour la journée, je peux plus servir Dieu. Par accident, une femme me touche, c'est fini. Je peux plus servir Dieu pour la journée. Je croise un lépreux, il est passé à moins d'un mètre. Je peux plus servir Dieu de la journée. Tout est compliqué tout le temps. Et lui, il vient nous dire, c'est pas assez. Il en faut plus. C'est l'horreur. C'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont crucifié. Et on aurait fait pareil. Hein. Si quelqu'un arrivait ce matin, envoyé de la part de Dieu, et puis qu'il vienne, projeter nos pensées les plus sombres, les plus secrètes et les plus mauvaises devant tout le monde, ici, là. Hein. Pendant que je vous parle, tout d'un coup, ce que je suis réellement apparaîtrait ici. Ouf, Seigneur. Comme on dit en roumain, Doamne ferește. Dieu m'en préserve. Surtout pas. Mais c'est ce que Jésus est venu faire. Ah, vous voulez jouer sur ce terrain-là, je suis quelqu'un de bien. Alors moi, je vais vous montrer comment il faudrait être pour être bien. Et là, tous, hein. Et c'est ce qui s'est passé lorsque ces gens-là amènent cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, hein, toute seule. Flagrant délit d'adultère toute seule, on ne sait pas comment elle a fait. C'est assez difficile, hein, pensez-y. Mais elle l'a fait. Et on l'amène, on la jette devant Jésus. Et justement pour le piéger par rapport à ce genre de choses. Hein. Ah ouais, Jésus, tu fais le malin avec la loi. Ben maintenant, on va voir ce que tu fais avec ce cas-là. Et puis, accusés par leur conscience, ils s'en vont. Du plus âgé au plus jeune, bien sûr. Quand on est jeune, on pense encore qu'on va y arriver. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour les gens qui ont un peu plus de 20 ans ici, en tout cas, moi, je suis beaucoup plus désespéré de moi-même aujourd'hui que quand je me suis converti. Quand je me suis converti, je n'étais pas un truand, j'avais jamais tué personne, jamais trop volé, jamais trop menti. Et je me convertis là avec l'aide de Dieu encore 10 ans et vous allez voir, je vais être quelqu'un de bien. Hein. 30 ans plus tard, je me dis, oh là 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 là, quelle catastrophe. Il n'y a rien à en tirer. Si c'est pas Christ en moi, alors c'est tout bon pour la poubelle. Et c'est bien, et ça va être comme ça de plus en plus. Parce qu'il y a plus de lumière, on voit, on réalise. Mais c'est ce que Jésus faisait, et c'est pour ça que du plus âgé au plus jeune, ils sont partis. Et en fait, c'est la bonne nouvelle, elle est là. Mais pour qu'il y ait la bonne nouvelle, il fallait qu'il y ait cette mauvaise nouvelle avant. Vous n'allez pas y arriver, parce que même ceux qui pensent y arriver, on va mettre le standard à ce qu'il est. Hein? Et vous connaissez, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, l'exemple que j'utilise tout le temps. Hein? On a raté le train. Il y a ceux qui l'ont raté de 3 jours, il y a ceux qui sont même pas venus à la gare, il y a ceux qui l'ont raté de 3 secondes. Ils l'ont vu là, ils l'ont presque touché, boum, il est parti. Et ils se sentent tellement mieux que ceux qui sont arrivés 2 heures en retard. Hein? Moi, quand même, je l'ai presque eu. Hein? si la finalité c'était de prendre le train, on l'a tous raté. Et celui qui l'a raté de 3 secondes par rapport à celui qui est même pas venu à la gare, il a rien de plus, il a raté le train. Et on est tous comme ça. Mais c'est quand même vrai qu'on préfère l'avoir raté de 3 secondes que de 3 heures. Parce que quand 3 heures après les autres arrivent, on les attend sur le quai, on leur dit « T'as vu l'heure qu'il est ?» Hein ? Ouais, bon, moi, 3 secondes, je l'ai raté, mais j'aurais pu l'avoir. Hein. Juste, c'est presque pour t'attendre que je l'ai raté. Quoi. Mais toi, 3 heures hein ? On aime faire ça. Justice propre. Et Jésus dit ici, celui qui commet le péché est esclave du péché. Si je pense que je commets pas trop le péché, alors je m'abuse moi-même et je reste esclave du péché. Et je suis pas libre. Pourquoi je suis pas libre? Parce que je m'approche de Dieu sur une fausse base. Et sur ce chemin-là, il n'y a pas de solution. Hein. Soit je chute, j'y arrive pas. Alors là, ben, je peux pas m'approcher de Dieu parce que aujourd'hui j'ai encore fait ça, je suis encore tombé là-dedans, j'ai encore eu ça. Donc aujourd'hui, je peux pas prier, je peux pas évangéliser, je peux pas lire ma Bible. Je suis pas un bon chrétien. Ce qui est faux. Le lendemain, j'ai l'impression que j'y arrive. J'ai l'impression, c'est pas possible. Mais j'ai l'impression d'y être arrivé. Je me suis levé à l'heure, j'ai lu les versets qu'il fallait, j'ai lu le commentaire qu'il fallait, j'ai prié le temps que je m'étais fixé, j'ai pas crié sur la voisine, j'ai pas, hein, je suis resté à la limitation de vitesse. J'ai passé une journée presque parfaite. Et là, le soir, je m'approche de Dieu, hein, c'est, tu sais, Seigneur, toi et moi, ensemble, on pourrait faire quelque chose, quand même. Parce que quand je vois tous ces pauvres pécheurs, Seigneur, et pitié de... Et je suis autant dans le faux là que le jour d'avant quand je dis je peux pas prier. Je suis esclave du péché dans l'un et dans l'autre. Je deviens soit un bon pharisien, soit quelqu'un qui croule sous la culpabilité. Et dans les deux cas, c'est faux. Je suis esclave du péché. Et Dieu me dit, j'ai autre chose pour toi. Mais je veux pas, c'est tellement difficile. Parce que je vois pas d'issue. Je sais pas comment vous faites pour vous, mais soit je jeûne pas, et puis je me dis quand même, c'est écrit dans la Bible, je devrais jeûner. Je comprends pas trop, mais je devrais le faire d'abord. Mais je le fais pas. Puis le jour où je me dis quand même, je vais le faire, je le fais. Et puis je me dis quand même, j'ai jeûné. Comment on fait? Il n'y a pas de solution entre les deux. Si, il y a une solution, mais elle n'est pas du tout dans ce domaine-là. C'est que nous sommes tous coupables, tous condamnés. Il n'y en a pas un de juste, pas même un seul. Et ça, c'est rigolo parce que ces versets, on les connaît par cœur pour l'évangélisation. Quand on va voir des sale païen pourri, les SPP ça s'appelle, hein. Ces gens qui connaissent pas Dieu. Alors là, on connaît tous ces versets de Romains, hein. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans ce tous, il n'y a pas moi. C'est tous les autres. Hein. Puisque moi, maintenant, je suis quelqu'un de bien. Mais pour quelle raison je suis quelqu'un de bien maintenant? Si j'ai pas compris ce qui se passe là, même étant réellement enfant de Dieu, je suis encore esclave du péché. Parce que je vis dans un système de propre justice relatif. Je me compare aux autres. Puis c'est terrible la comparaison. En même temps, c'est pratique parce que d'un côté, il y a toujours pire que nous. Hein. Je sais pas comment on fait le dernier en bas de la chaîne, mais on trouve toujours pire que nous. Toujours. Malheureusement, il y en a toujours un qui est mieux que nous. Hein. Et là, la tentation de couper les têtes de ceux qui sont plus grands pour que j'ai l'air plus grand, c'est difficile à résister. Parce que je suis presque en gros, mais il y a encore Kathleen qui est mieux que moi. Mais si je trouve un petit défaut chez Kathleen, c'est moi le premier. Alors maintenant, j'observe sa vie, et là, le moindre petit faux pas... D'ailleurs, une de tes colocataires m'a dit la semaine dernière... Bon, je le dis pas au micro parce que c'est enregistré, mais ce qu'elle m'a dit... Hein? Non, j'ai faux dans ce domaine-là. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils... lui en fait partie pour toujours. Le mot qui est utilisé ici pour fils, bien sûr, c'est le mot qui parle en général aussi pour fils de Dieu, mais vous savez, le grec, des fois, c'est beaucoup plus riche que notre langue, des fois moins, ça dépend les domaines. Hein. Mais pour les mots fils, enfant et cette catégorie-là, le grec était très, 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 très riche. Il y a une quantité de mots différents. Et c'est, sans faire un cours compliqué ce matin, c'est intéressant de s'y pencher parce que lorsque Jésus, et on va le voir après Paul, utilise ce mot fils, ça veut pas dire juste l'enfant de quelqu'un, ça veut dire l'enfant adulte qui a la pleine possession de la propriété familiale. Et on va lire un deuxième passage, puis on va mettre tout ça ensemble, vous allez voir, dans Galates 3, 23. Là aussi, c'était le même contexte, c'est Paul qui parle, mais c'est la même histoire. Paul a été annoncé l'évangile aux Galates, qui l'ont accueilli avec joie, qui se sont réjouis. Et vous savez que, c'est pas la Bible qui le dit directement, on le comprend, mais on le sait aussi par l'histoire, hein. Il y avait des gens qui suivaient Paul à distance, à quelques, on ne sait pas si c'est quelques mois, quelques semaines, mais d'intervalle. Et partout où il passait et il implantait les églises et annonçait la grâce, ils arrivaient derrière. Et puis, ils commençaient par expliquer que Paul, ouais, Paul, il se dit apôtre, mais c'est pas un vrai. D'abord, il a persécuté l'église, et puis il a fait ci, il a fait ça, etc. C'est pas un vrai apôtre. Il n'a jamais vu Jésus. Ouais, il dit qu'il a été aussi à l'étudier, mais enfin, comment prendre au sérieux quelqu'un qui dit des choses pareilles? Et puis, il vous a pas enseigné correctement. Oui, Jésus, c'est bien, mais il faut aussi se faire circoncire, respecter le sabbat, les lunes, les trucs, les machins, les bouclettes, le reste et tout. Il faut les deux, hein. Il faut un consensus. C'est des gens qui auraient été bien accueillis, je crois, dans ce pays ici, hein. Faut pas être radical, il faut trouver un compromis. La loi et la grâce, ça va ensemble, un peu des deux, 50-50, une bonne eau bien tiède. Et ces gens-là donc faisaient du tort. Et Paul, à ce moment-là, écrit l'Épître aux Galates. Et essayez de la relire d'un bout à l'autre, comme si vous l'aviez jamais lu, pas par petits bouts comme ça, un petit verset, hein, dans différentes traductions. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui arrive le mieux. La lettre aux Galates, c'est un grand coup de gueule de Paul qui s'énerve. Hein. Tant qu'on l'accusait lui, alors on pouvait dire tout ce qu'on voulait sur lui, ça, c'était comme l'eau sous les plumes d'un canard. Hein. De toute façon, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, vous êtes en dessous de la réalité. Je suis pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsque Paul dit « Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier », c'est pas une formule évangélique de fausse modestie. Paul était quelqu'un qui devait lutter chaque jour pour pas sombrer dans la culpabilité parce qu'il avait mis à mort des chrétiens. Vous vous rendez compte comment on se sent non coupable quand on a fait quelque chose de pas gentil, mais hein, j'ai dit du mal sur Kathleen et puis après je la croise au culte, on prie ensemble et là, je me sens coupable pendant toute la semaine. Excuse-moi, tu es devant ce matin. Il fallait quelqu'un, c'est toi. Paul, il est rentré dans des maisons, il a pris des pères de famille, devant leurs enfants, devant leurs femmes, il les a arrachés de leur maison, il les a jetés dehors, il a pris des pierres, il les a tués. Et pas qu'une fois. Et il faisait ça avec détermination. Il était dans la catégorie Ben Laden, Hitler et tous ces gens-là, c'était un fou furieux. Et il faisait ça au nom de Dieu. Jésus l'arrête, il devient croyant. Vous imaginez, vous allez prêcher dans une assemblée, il y a probablement le cousin, le beau-frère, la belle-sœur, l'oncle, ils étaient tous parents, hein. Comme ici dans la vallée, quoi. Rencontrer quelqu'un, ils sont tous là. Hein, hein. Et là, vous devez parler de la grâce de Dieu, et puis il y a quelqu'un au fond qui vous regarde, et puis vous savez, parce que vous connaissez. Ah oui, j'ai lapidé son beau-père. Non, son beau-père, encore, c'est pas pire. Mais son frère, hein. J'ai lapidé sa mère. Son frère. Non, c'était terrible pour Paul. Donc quand on lui disait, Paul, tu es un minable, tu es un raté, tu es pas bien, vous pouvez le dire. Mais quand on disait, la grâce de Dieu c'est bien, mais il faut y ajouter quelque chose. Là, Paul devenait une ours à qui on a volé ses petits. Et le vocabulaire dans le texte original de l'Épître aux Galates, il est salé. Nos traductions l'ont bien édulcoré, là, vraiment gentil. Hein. Il y a des passages où il dit qu'ils soient castrés et qu'ils pourrissent en enfer, ces gens-là. Ils parlent spirituellement, c'est-à-dire que leur enseignement ne se reproduise pas. Mais c'est le terme qui est utilisé, hein. Parce qu'il est sur le sujet de la circoncision, et puis que ce soit eux qui soient coupés et qui soient damnés pour l'éternité. Vous imaginez un prédicateur aujourd'hui qui utiliserait ce vocabulaire-là? Il serait renvoyé immédiatement. C'est pour ça que je le fais pas. Mais, dans l'Épître aux Galates, donc ça c'est le contexte. Paul laisse pas qui que ce soit attaquer le message de la grâce. Mais souvent, quand on parle du message de la grâce, on réalise pas que pour que la grâce soit pleine et entière, il faut que la loi ait fait pleinement et entièrement son travail. Si je suis pas à 100% coupable, ben, j'ai pas besoin à 100% de la grâce. Et nous, on pense que la grâce, c'est le plus pour compléter ce qui me manque. je vais faire de mon mieux pour être comme Jésus-Christ, je vais faire des efforts. Alors, une bonne éducation, là, on reprend, hein, pas les coudes sur la table, pas le doigt dans le nez, dire bonjour au monsieur, être à l'heure, travailler, là, pas de mauvaises pensées, pas regarder la télé, pas aller au cinéma, là. Et puis, quand j'ai fait tous mes efforts, parce que je suis pas parfait, je le sais, je suis humble, hein, pour être parfait, il faut l'être, hein, je vois qu'il me manque ce petit peu, et là, je dis, oh, que la grâce de Dieu comble la différence. J'ai tout faux. Parce que c'est tout ou rien. Si je suis coupable, condamné à mort, il n'y a rien de bon en moi, l'enfer pour toujours, billet simple, aller simple, pas besoin de demi-tarif pour celui-là. Alors, il y a une bonne nouvelle. Pour les gens qui sont dans ce train-là, dans cette catégorie-là, il y a la grâce de Dieu à 100%. Et là, il se passe une chose extraordinaire, c'est que non seulement Dieu dit « Je vous offre ma grâce, vous êtes pardonnés », mais ça suffit, ça suffit largement, de toute façon on ne méritait rien. Mais il a choisi d'ajouter à ça des quantités d'autres choses. Et l'une d'entre elles, hein, il nous régénère, il nous pardonne, il nous lave, il nous, etc., etc. Il fait de nous, pas juste ses amis, il ne devrait plus faire de nous ses serviteurs, mais ses enfants, mais pas juste ses enfants, on entre dans le royaume de Dieu comme fils. Et le mot fils, donc je le reprends et Paul va le développer dans ce passage qu'on va finir par arriver à lire, hein, on va y arriver. Je dirais, pour aujourd'hui, c'est un peu comme quelqu'un qui a une entreprise, hein, une grosse entreprise, et puis au début, il prend son fils comme apprenti. Puis il est là comme tout le monde. Il va balayer le soir et puis même on lui donne des sales boulots parce qu'il faut qu'il apprenne, etc. Et puis il va passer les échelons, passer par différents postes. Mais il va y avoir un jour où le père va lui dire, ben maintenant l'entreprise, elle est autant à toi qu'à moi. Alors voilà, tu as la signature sur les comptes, tu as la carte de crédit, tu peux décider, tu peux signer comme moi. Ce passage-là, c'est le passage de l'enfant, ben il a toujours été le fils de son père, à celui de fils, le fils adulte qui exerce son autorité dans un domaine particulier. Lorsque Jésus-Christ nous a rachetés, il n'a pas fait de nous juste ses enfants, ce qui aurait déjà été extraordinaire. Il fait de nous des fils. On a une illustration de ce principe très claire dans la parabole que Jésus raconte du fils prodigue. Vous savez que cette parabole, il la raconte surtout pour les pharisiens qui ressemblaient au fils aîné. Mais il y a quand même le jeune fils qui est là, ce plus jeune fils qui vivait dans la maison et qui n'avait rien compris, qui prend son héritage, vous connaissez l'histoire, il s'en va, il le dilapide, etc. Et là, d'un coup, il réalise, je vaux rien, j'ai tout raté, même les cochons sont meilleurs que moi, puis ils veulent pas de moi, je pourrais retourner dans la maison de mon père et être esclave. Il a compris, je suis un pécheur complètement corrompu. Évidemment que Dieu peut pas me reprendre comme son fils, il va pas me redonner la carte de crédit, j'ai déjà claqué la moitié de l'héritage. Mais, finalement, j'aimerais mieux être un esclave dans cette maison que rester ici avec les cochons. Il retourne. Et vous connaissez l'histoire, qu'est-ce que fait le père? Il l'accueille, non seulement il le réintègre, mais robe blanche, pour donner sa dignité, et qu'on amène un anneau. L'anneau, c'était quoi? C'était la carte de crédit de l'époque. C'est avec l'anneau qu'on signait. C'est-à-dire qu'immédiatement, il le rétablit dans la même position qu'avant. C'est pour ça que le fils aîné, il devient fou furieux. En langage d'aujourd'hui, il pète les plombs. Mais c'est pas possible! Mais on est comme ce fils aîné. Parce que moi, quand même, ça fait des années que je sers Dieu. Moi, j'ai renoncé à ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait le reste. Je sers Dieu, et puis, ouais, j'y arrive pas parfaitement. Alors, il y a la grâce pour combler les petits peu qui me manquent. Mais quand même, avec tout le mal que je me donne, et puis l'autre, il arrive là, il a rien fait, et Dieu lui donne pareil qu'à moi, et il le fait. C'est pas juste. Et les ouvriers de différentes heures, et toutes ces choses-là, c'est choquant, c'est injuste pour nous, dans notre perception, ça l'est réellement si on veut. Mais parce qu'on n'a pas compris une chose, on doit accepter d'être condamné. Complètement. Tous, qui que nous soyons. Parce que c'est après ça que vient la justification. Et c'est pour ça que, en tant que croyant, et je vous parle de ça, ça m'arrive tous les jours, quand je dois me tourner vers Dieu et que j'y arrive pas parce que je me sens tellement nul, tellement incapable, j'ai encore raté ça, j'ai encore oublié ça, j'avais pas envie de faire ça. J'aurais pu voir cette personne-là, mais il m'aurait pris 20 minutes, je suis passé dans le rayon d'à côté à la coop pour pas le voir parce que je sais qu'il a des difficultés, mais là j'ai plus envie. Toutes ces choses-là, puis on arrive devant Dieu et on se dit, mais c'est lamentable. et je me sens coupable. Alors bien sûr que si j'ai péché, je dois confesser mon péché. Mais quand je me sens lamentable dans ces moments-là, ça veut dire quoi ? C'est que j'ai encore des illusions sur moi. C'est que je pense encore que Dieu a pas fait une si mauvaise affaire que ça en me rachetant. Hein ? Oui, il m'a trouvé aux encombrants, mais il n'y avait pas grand-chose à réparer. C'était pas une table où il manquait les quatre pieds. Il manquait un peu de vernis sur le coin. On se demande même pourquoi on l'avait jeté. C'était encore presque utilisable. Hein ? C'est ça que ça traduit. Parce que si j'avais réellement intégré, on peut pas expérimentalement, hein, mais que j'ai raté le train complètement, je suis séparé du standard de Dieu. J'atteindrai jamais la gloire de Dieu. Alors pour moi, il y a une bonne nouvelle, l'évangile, bonne nouvelle, la grâce pleine, totale, complète, qui fait que lorsque Dieu me regarde, il me voit à travers Christ et il me voit comme lui. Et nous, on s'imagine toujours, aujourd'hui Dieu est content parce que j'ai été au culte. Aujourd'hui, Dieu est content, je me suis levé. Aujourd'hui, mais Dieu n'est pas content ou pas content avec ces choses-là. Dieu est content parce qu'il nous aime et qu'on accepte de recevoir ce qu'il nous a offert. La seule chose qu'on puisse faire, c'est même pas pour Dieu, mais pour nous, c'est consentir à ce qu'il nous aime, consentir à ce qu'il nous pardonne. Et encore, c'est lui qui nous donne la force de le faire, mais quelque part, c'est assez compliqué. Et si vous avez compris, ça m'intéresse que vous m'expliquiez comment ça se passe. Mais quelque part, il y a quand même, dans les Écritures, cette possibilité chez l'être humain corrompu de, même pas de faire, même pas demander d'appeler, mais d'accepter que Dieu le fasse. Mais immédiatement, dès qu'il y a deux jours d'affilée qui vont bien, je sors de là et je redeviens un vrai bon pharisien, esclave du péché, pas fils dans la maison. Alors, je lis maintenant mon passage de Galates. Non, mais c'était l'introduction à Galates. Galates 3, 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi. C'est joli dans le texte parce que enfermé sous la surveillance, les deux mots qui sont utilisés, le premier veut dire être gardé par des gens armés, et le deuxième, en fait, c'était un terme de pêcheur, qui disait être tous dans le même filet. Hein, quand les poissons sont dans un filet. Hein, pour ceux qui ont vu Nemo, vous connaissez le film de Nemo ? Culture générale importante. Hein. Le filet passe et tous les poissons sont dedans. Les beaux, les grands, les petits, ce qu'il faut, ce qu'il faut pas, ils sont tous pris dedans. Nous étions gardés dans le même filet, tous, par la loi. Il n'y a personne qui passe à travers les mailles. On est tous plus gros que les mailles. Aucun d'entre nous est parfait. Donc, sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être dévoilée, révélée, hein, montrée publiquement. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous, donc il est bien dit tous, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et le mot fils, là, c'est pas juste le petit enfant, c'est le fils qui a la carte de crédit, qui a l'anneau, qui peut dire... Papa, j'ai fait les commandes aujourd'hui pour l'approvisionnement. Alors, j'ai commandé ça, 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 on change cette machine, on fait ça, et puis j'ai payé la facture. Et le père dit, c'est bien mon fils, tu as bien fait. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez qu'une des conséquences, il y en a une infinité, mais une des conséquences du fait que nous soyons tous condamnés et tous rachetés, c'est que du coup, pas dans notre fonction, mais dans notre valeur, il n'y a plus des grands, des petits, des hommes, des femmes, des juifs, des grecs, des païens, on était tous des condamnés à mort, tous graciés. Et donc, on a tous la même valeur, puisqu'on a tous été rachetés au même prix. Hein. Vous savez que dans notre monde qui aime le commerce, la valeur d'une chose, c'est le prix où on l'achète. Ça n'a rien à voir avec sa vraie valeur en réalité. C'est la loi de l'offre et de la demande. Vous avez un truc magnifique, mais vous l'avez payé pas cher. L'autre a un truc minable, mais il a payé le même prix. Ça a la même valeur. Si je peux le revendre au même prix, ça a la même valeur. Nous avons tous été rachetés au même prix. C'est un prix inestimable. L'apôtre Pierre nous dit le sang précieux de Christ. Il n'y en a pas un ici qui a été racheté par autre chose. Pas possible. Et on n'est pas non plus racheté par une demi-mesure de sang de Christ. Hein. Deux décis, trois décis, non. C'est le sang de Christ pour tous. Donc, tous la même valeur. Donc, il n'y a plus les bons, les mauvais, les grands, ce qui arrive, ceux qui ont fait beaucoup, ceux qui n'ont pas fait beaucoup, ceux qui ont un grand ministère, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont un petit, ce qui se voit. Hein, et Paul, là, quand nous on trouve ça intéressant, à l'époque de Paul, dire il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, on ne réalise pas la bombe que c'est, ce truc-là. C'est, pour nous, c'est pas concevable parce qu'on vit dans une société qui est tellement différente. Mais c'est... D'ailleurs, on lui a coupé la tête, mais c'est un texte perversif au plus haut point. Il remettait tout en question, là. Parce que tout l'Empire romain était bâti sur il y a les uns, il y a les autres, il y a les esclaves, il y a les hommes libres, les hommes et les femmes, etc. Paul dit, en fait, en réalité, oui, ces choses-là existent, on vit avec, devant Dieu, tous dans le même filet, tous les mêmes poissons, tous droits en enfer. Et c'est une bonne nouvelle. Et en fait, ce que les pharisiens faisaient, c'est qu'ils essayaient d'élargir les mailles du filet pour que certains poissons plus minces puissent passer au travers. Hein? Nous, les anguilles, tandis que les autres dans le filet. Jésus dit, ok, vous voulez que... Alors moi, je vais vous dire, on va resserrer les mailles du filet. Vous avez entendu qu'il a été dit, et moi, je vous dis. Et là, tout d'un coup, même les anguilles, c'est une moustiquaire qui passe plus. Hein? Et vous savez qu'il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, hein, qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et vous savez quelle est la seule façon pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille? En purée. Il n'y a que ça, hein, sinon ça passe pas. C'est pareil pour nous. C'est la mort. C'est la mort. Pour que la vie puisse venir. Alors je continue Galate. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il dit ça à des païens. C'est encore un truc de fou. Or, je le dis, et là c'est vraiment intéressant pour nous ce matin, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Oui, c'est comme si on revient en arrière là, parce que en fait, on est devenu croyant, on est devenu enfant de Dieu. Mais si je comprends pas ce principe que je suis totalement corrompu et que Dieu veut me donner sa grâce à 100%, maintenant je suis effectivement dans le royaume de Dieu, je suis enfant de Dieu, il est dit là. Et le mot qui est utilisé ici pour enfant, je trouve rigolo en français, népios, un peu un petit bébé. C'est celui qui a pas l'âge de la raison, qui peut pas réfléchir, qui peut pas penser. Ça reste, hein, lorsque votre bébé, voilà, il est plus là. On avait un petit bébé juste ici il y a pas longtemps. Évidemment que c'est l'enfant de ses parents, on l'aime autant qu'on puisse aimer un enfant, c'est le nôtre, on sait qu'un jour tout l'héritage sera à lui, mais au jour d'aujourd'hui, il décide rien, il fait rien, tout est à lui, mais en réalité, n'importe qui est engagé, même mal payé pour s'occuper de lui, décide pour lui, mais c'est lui le maître. Et Paul dit, attention parce que, vous avez accepté le sacrifice de Christ, vous l'avez compris, vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais même dans le royaume de Dieu, alors que vous êtes appelés à être des fils, avec l'anneau, les pouvoirs de décider, de penser, hein, Jésus dit, je vous appelle pas mes serviteurs, mais mes amis, parce que l'ami dit à son ami ce qu'il va faire. Et pourtant, moi, je vis comme un petit bébé, je me prive de tout, je vis pas comme l'héritier. Je vis comme le fils aîné. Seigneur, avec tout ce que j'ai, Père, avec tout ce que j'ai travaillé pour toi, tu m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Et le Père lui dit, mais tout ce que j'ai à toi, t'as rien compris. Hein? Et ça, on voit tellement ça de fois dans nos vies chrétiennes quand on est frustré. Hein? Et si on ramène très très pratique maintenant, je pense qu'on a tous vécu ça, et même que vous soyez d'une autre église, peut-être que vous êtes une église différente, hein? Ce genre de réflexion, genre, toujours les mêmes qui font tout, là. C'est, hein. Allez, moi, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et puis, j'ai quoi en retour? On le dit pas, parce qu'on est humble, hein, mais on le pense. Ou alors, on se le dit entre nous, les, un peu mieux que les autres. Hein. Quand je parle comme ça, je parle comme le fils aîné, je montre que j'ai rien compris. Je dis, mais tu es obligé de rien. Tu as rien à faire pour que je t'aime. Je t'ai aimé quand tu étais ennemi avec moi. Quand ta seule pensée, c'était, mais, crucifions Jésus-Christ, quand tu m'as craché au visage, quand tu étais là avec le marteau en train d'enfoncer les clous, et puis en disant, c'est lui qu'il faut mettre à mort, libérer Barabbas, parce qu'on est tous dans cette catégorie-là, hein. À ce moment-là, je t'ai aimé parfaitement. Comment tu peux imaginer que maintenant que tu es devenu mon enfant, je vais t'aimer pour ce que tu fais, ou parce qu'aujourd'hui tu as été gentil, ou parce que tu as dit merci à la dame, ou parce que tu te... Non. Et si tu fais plus rien, je t'aimerai pas moins. Mais c'est triste pour toi. Tu es un enfant, tu devrais vivre comme un fils héritier, et dans ton expérience, tu vis comme un esclave. Parce que tu veux pas accepter la réalité qui est, tu y arrives pas tout seul. Mais pas du tout, pas juste un peu, pas du tout. Tu n'es pas mieux que... Hein, pensez à la... S'il vous plaît, vous dites pas le nom entre vous. Hein, mais, pensez à la pire personne pour vous. Hein. Je sais pas qui c'est pour chacun d'entre vous, hein, mais pensez à la pire personne que vous ayez connue ou entendu parler. Maintenant, essayez concrètement d'imaginer, je suis pas meilleur. Tu aurais un verre d'eau, ça passe pas. C'est... Hein. Dès que ça devient concret, parce que les théories, les idées abstraites, c'est assez facile, quoi. C'est beau, la grâce, etc. Maintenant, concrètement, hein, la personne la plus pourrie que vous connaissiez, ou que vous détestez le plus, qui vous a fait le plus de crainte, et vous dites, je vaux pas mieux. Ah ben non, quand même, non, 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 ça non. Alors, ça montre bien qu'on a un souci. Et on l'a tous, hein. Mais justement, Paul dit, voilà. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Je relis. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Ne prends pas, ne touche pas, ne fais pas, attention, fais ci, fais pas ça. Bonne éducation, mais sans la grâce. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et le mot adoption, ici, il est composé du mot fils, le fils adulte, hein, avec quelque chose à la fin. Que vous soyez fait fils, pas juste enfant, fils. Hein. Une image, tout le monde connaît, je pense, le film de Ben-Hur, hein. C'est un juif, et puis à un moment, il sauve un riche romain qui l'adopte. Et là, il se retrouve dans une situation où lui, juif condamné aux galères, maintenant, il est romain, il a été adopté, et il a les mêmes droits que ses ennemis. Et tout le monde est fou furieux. Comment c'est possible? C'est un juif, on le connaît, il a fait les galères, il a fait ci, il a fait ça. Il a été adopté, il a le sceau de son père. Et peut-être que lui, à certains moments, ne se sentait pas le fils de, je ne sais plus comment s'appelait son père, hein, adoptif. Il ne se sentait pas romain parce qu'il était juif. Mais légalement, il pouvait aller devant n'importe qui. Je suis le fils. Et puis, c'est moi qui gère ses affaires. C'est exactement notre situation. Sauf que, ben, on ne se sent pas dans cet état-là. Ben oui, parce qu'on ne l'est pas. Mais en même temps, c'est ce que Dieu dit. Et c'est pour ça que le juste vivra par la foi. Ces versets qui nous parlent du juste qui vit par la foi, c'est pas juste le fait qu'un jour j'ai cru, je suis sauvé. C'est que le juste vit par la foi seconde après seconde, ou il vit pas. Ou je crois à chaque moment de ma vie que je suis justifié à cause de l'œuvre de Christ et rien d'autre, ou je suis soit un pharisien hypocrite, soit un chrétien déprimé et culpabilisé. Il n'y a pas d'issue entre les deux. Et en général, nos vies, c'est le yo-yo entre l'un et l'autre. Hein. Les moments où j'y arrive un peu parce que les domaines me conviennent, et là, je suis un bon chrétien, et puis les bouf, gamelles, et là, oh, je suis un mauvais chrétien, misérable. Et Dieu dit, tu as tort, là et là. T'es jamais un bon chrétien à cause de ce que tu fais, et t'es jamais sous la condamnation parce que j'ai payé pour toi. C'est difficile. Comment je vais vivre ça? Par la foi. Je me lève le matin, je me vois dans la glace, ah! Quelle horreur. Et là, par la foi, je me dis, Dieu m'aime comme ça. Pas possible. Si. Crois-le. Ouais, mais je peux pas. C'est Dieu qui le dit. Dieu est Dieu. Ouais, mais pas dans mon cas, hein. Et pareil, la fois où je vais voir Dieu comme si j'étais son égal à cause de ce que j'ai fait, hein, comme cet escargot qui va sur la barrière de taureau de corrida, qui sort ses deux antennes, il y aura le taureau de corrida, et puis qui dit, nous autres, bêtes à cornes, hein, on fait ça avec Dieu. Toi et moi, Seigneur, dans la même cour, hein, t'es un peu plus grand que moi. Non, ridicule les deux. Je dois vivre par la foi. Dieu m'a accepté comme je suis. Hein. Et ça, c'est notre problème. Si je pouvais vivre dans la foi sur cette promesse-là, la culpabilité n'existerait plus, l'orgueil non plus dans ma vie. C'est pas une expérience qu'on fait une fois et qui va durer, hein, ça n'existe pas. Par contre, je dois moment après moment me réapproprier ces vérités. Comment? En les écoutant, la foi vient de ce qu'on entend, en les méditant, en les mélangeant à ma foi, pour qu'elles fassent de plus en plus partie de moi-même. Et ça, ça va me transformer, sans me rendre orgueilleux, sans me laisser écraser par la culpabilité. C'est un miracle, et ça vient de Dieu, qu'il a fait pour nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean peut dire, voyez combien, 1 Jean 3, vous connaissez ce verset, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et là, c'est encore un autre mot, c'est ni le fils ni le bébé, c'est celui qui est issu de la filiation, tout simplement, un terme générique. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Pas nous le serons, nous le sommes. L'adoption a eu lieu, elle est validée. J'ai les papiers en règle, j'ai le passeport, c'est mon père. Mais comment c'est possible? Il est noir, vous êtes blanc. C'est mon père. J'ai été adopté. Vous ne lui ressemblez pas. Ben non, je sais, il m'a adopté. Mais c'est mon père. J'ai les papiers. Et par la foi, je regarde le passeport et je me dis, ouais, c'est vrai qu'on ne se ressemble pas. Forcément, il m'a adopté. Mais il a choisi de m'adopter. Je l'accepte. Et puis après, du coup, ben, l'étape d'après, c'est que je vois Kathleen et puis je dis, ben, elle ne me ressemble pas. Elle ne ressemble pas non plus à son père, hein, Céleste. Et pourtant, elle a le même papier. On est frères et sœurs. Ça me plaît pas, ça n'a rien à voir, c'est un fait. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui découlent de ça. Alors simplement, gardons ça et puis laissons le Saint-Esprit mettre tout ça à sa place chacun dans nos vies. Enfants, esclaves, fils, on passe d'un état à l'autre dans la fonction. Mais dans la réalité, nous sommes les fils et les enfants de Dieu. Et nous le sommes maintenant, si nous connaissons bien sûr. Seigneur, nous te remercions parce que ces choses qui nous dépassent, qui sont trop grandes pour nous, c'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que le cœur de l'homme aurait jamais pu imaginer, même dans le roman le plus créatif. Et ça, c'est la réalité, c'est ce que tu as fait, par ta vie, par ton œuvre, par ton esprit. Te prions ce matin que nous puissions être guéris de notre propre justice, que nous puissions accepter la condamnation, pour vivre à 100% de ta grâce, pour être libéré par cette vérité, que la vérité nous rende réellement libres expérimentalement dans notre relation avec toi, dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre relation avec les autres, qui te connaissent ou pas, que nous puissions sans arrêt par la foi nous saisir de ces vérités, qu'elles soient notre nourriture, notre méditation, et qu'elles conduisent nos vies jour après jour pour te glorifier. Amen.